France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse et à la veille de la journée mondiale contre le cancer, quelles sont les dernières avancées contre cette maladie qui tue plus de 162 000 personnes par an dans notre pays, plus de 430 000 nouveaux cas chaque année, 1200 par jour, c'est la première cause de mortalité dans notre pays, un enjeu majeur de santé publique. Les cancers les plus fréquents restent ceux de la prostate, du sein, du colon rectum et du poumon, mais heureusement, la recherche avance et nous invités vont partager les révolutions en cours et à venir, thérapie ciblée, immunothérapie, des progrès qui vont s'amplifier avec l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, la robotique, les vaccins tumoraux. De l'espoir ce matin grâce à nos invités chercheurs. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Notre corps est composé de très nombreuses cellules. Elles sont un élément de base de tous les êtres vivants. Les cellules ont toutes sortes de fonctions. Elles sont programmées pour savoir qu'un doigt ça pousse sur une main et ça possède un ongle et de la peau. Quand nous nous coupons, les cellules de la peau se multiplient pour fermer la plaie. Chaque cellule est programmée pour une certaine durée de vie, puis elle meurt et est remplacée par d'autres cellules. Un cancer se déclare quand le programme comporte un défaut. La cellule change d'aspect et se divise beaucoup plus qu'elle ne devrait. Cela va produire une tumeur. Les cellules malades peuvent détruire les cellules saines. Afin que la maladie ne se propage pas dans tout le corps, il faut combattre les cellules cancéreuses le plus vite possible. Un des traitements possibles, c'est la chimiothérapie. Ce sont des médicaments contre le cancer. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi certaines personnes développent un cancer. Mais il est sûr qu'il y a des comportements à risque, comme fumer, qui peut provoquer un cancer des poumons, ou les coups de soleil, un cancer de la peau. Il vaut donc mieux mener une vie saine, mais malheureusement, ce n'est pas une garantie pour ne jamais avoir un cancer.
Extrait d'Arte Journal Junior en 2020. Bonjour professeur Jean-Emmanuel Bibot.
Bonjour.
Vous êtes professeur en oncologie et radiothérapie à l'Université Paris-Cité, praticien à l'hôpital européen Georges Pompidou, chercheur à l'INSERM dans le domaine de l'intelligence artificielle et vous publiez aux Équateurs « Cancer Confidential, l'histoire du cancer des secrets d'hier aux révolutions de demain ». Bonjour professeur Éric Vivier.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'immunologie à l'Université Aix-Marseille, membre de l'Académie de médecine. Et vous aviez publié avec Marc Dairon « L'immunothérapie des cancers, histoire d'une révolution médicale » chez Odile Jacob. En quelques mots simples, l'immunothérapie, c'est quand le corps organise sa défense contre le cancer ?
Exactement. Avant, pour soigner le cancer, on le ciblait, ce qui fait du sens. On l'enlevait par chirurgie ou chimiothérapie ou radiothérapie. Là, les médicaments que l'on met au point sont des médicaments qui ciblent notre système immunitaire, de telle manière à le booster, à le stimuler, pour que lui-même soit plus à même de contrôler le cancer.
Avec nous également, Philippe Bergerot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Ligue contre le cancer. Vous nous révélerez tout à l'heure les 10 recommandations de votre organisation au président de la République. Vous nous invitez à un sursaut collectif contre les inégalités face à la maladie.
Bien entendu, malheureusement, malgré ces différents plans cancers qui ont été mis en place, les inégalités perdurent et même parfois elles se creusent, et ce qui est un élément important à dénoncer.
Inégalité d'accès aux soins.
Inégalité d'accès aux soins, inégalité d'accès au dépistage, inégalité même sur la fin de vie. Donc, en fait, on a balayé tout le parcours de vie des patients.
Alors, je le disais en introduction, le cancer tue plus de 162 000 personnes par an dans notre pays, plus de 430 000 nouveaux cas chaque année. Les cancers les plus fréquents restent ceux de la prostate, du sein, du colon rectum et du poumon. Selon l'Institut National du Cancer, entre 1990 et 2023, le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé avec une augmentation de 98% des cancers chez l'homme et de 104% chez la femme, toutes localisations confondues. Comment expliquer cette augmentation, Jean-Emmanuel Bibot ?
Alors, on dit souvent, peut-être de façon pas tout à fait exacte, que c'est entre autres lié à de meilleures capacités de dépistage, donc de diagnostic, à un vieillissement de la population aussi. Mais ce dont on se rend compte, malheureusement, c'est que c'est pas simplement ça. Il y a une véritable augmentation du nombre de cancers, et notamment chez les personnes jeunes. Il y a notamment un article assez récent aux États-Unis qui a montré que les cancers colorectaux étaient littéralement en train d'exploser chez les personnes de 40-45 ans. Donc, il y a quelque chose qui se passe. On commence à réfléchir un petit peu et à comprendre les différents facteurs de risque qui expliquent cette augmentation.
On sait pourquoi, sur le cancer colorectal, chez les jeunes notamment ?
Alors, il y a pas mal de pistes. La principale, il semblerait que ça puisse être notamment l'alcool, tout simplement. Consommation d'alcool, et que tous les types d'alcool n'ont pas le même risque, entre guillemets, face au cancer. Et puis aussi, potentiellement, peut-être, tout ce qui est huile de cuisson ou conservation des aliments. C'est quelques pistes, mais c'est difficile d'être plus sûr.
Professeur Éric Vivier.
Oui, tout à fait d'accord. Je voudrais rajouter aussi les microplastiques et l'alimentation surtransformée, qui sont des pistes, malheureusement, très importantes.
La situation est plutôt encourageante chez les hommes, avec une diminution de l'incidence, une stabilité pour les cancers les plus fréquents chez les hommes, c'est-à-dire le cancer de la prostate, du poumon et le cancer colorectal. En revanche, chez les femmes, deux cancers augmentent de façon préoccupante, le cancer du poumon et le cancer du pancréas. Et point positif chez les femmes, on observe une baisse du nombre des cancers du col de l'utérus. Comment expliquer cette augmentation préoccupante chez la femme des cancers du poumon et des cancers du pancréas ?
Le premier facteur, on l'a déjà dit, c'est le tabac. Même si maintenant les femmes fument un petit peu moins qu'avant, il y a vraiment eu un délai entre le moment où les femmes ont commencé à fumer et où les hommes ont commencé à fumer. Donc forcément, ce délai se retrouve aussi sur l'épidémiologie du cancer du poumon. Et donc là, on est en plein dans le pic des cancers du poumon chez les femmes.
Alors fort heureusement, on le verra ce matin, le cancer n'est pas une maladie incurable. Rappelez-nous ce qu'est le cancer. C'est une maladie qui se caractérise par une croissance cellulaire incontrôlée. Notre organisme est constitué de 100 000 milliards de cellules. Comment naît une tumeur ? Et attention, toutes les tumeurs ne sont pas cancéreuses. Professeur Bibeau.
Alors, il faut d'abord bien comprendre que cette compréhension de ce que c'est qu'un cancer, elle a beaucoup évolué, et elle continue à évoluer, et elle continuera à évoluer dans les années qui viennent. Donc là, on n'a pas de définition qui soit totalement immuable et claire. On a pas mal d'articles scientifiques qui, entre guillemets, listent, on va dire, les vrais mécanismes moléculaires ou cellulaires qui expliquent l'apparition d'un cancer. Parmi ces mécanismes-là, l'un des premiers, c'est évidemment l'apparition de mutations. Il faut savoir que nous tous, on accumule des mutations génétiques au fur et à mesure de notre vie, et que certaines de ces mutations, en fonction des gènes qu'elles vont toucher, vont aboutir, par exemple, à une multiplication incontrôlée de certains types de cellules. Mais ce n'est pas suffisant, ça, pour faire un cancer. Même si on a des cellules qui se multiplient, on l'a dit tout à l'heure, on a le système immunitaire, en fait, qui est censé les repérer et les supprimer. Et donc, un des deuxièmes mécanismes, c'est justement cette capacité d'échappement aux défenses naturelles, c'est-à-dire que, par exemple, entre guillemets, les cellules vont se camoufler du système immunitaire pour continuer à se multiplier malgré leur caractère anormal. Et puis, d'autres mécanismes qui expliquent le cancer, c'est leur capacité à faire de l'invasion. Il ne suffit pas qu'elles se multiplient, il ne suffit pas qu'elles échappent, il faut qu'elles puissent aller ailleurs, dans d'autres organes, pour potentiellement, malheureusement, faire des métastases. Et donc ça correspond à tout un ensemble de capacités moléculaires très précis qu'elles doivent acquérir avant de pouvoir faire un cancer.
Professeur Éric Vivier.
Oui, tout à fait. Sur les causes du cancer, il y a effectivement, comme ça vient d'être dit, malheureusement, la possibilité pour les tumeurs à échapper à notre surveillance immunitaire. Parce qu'on est tous en train, là, dans ce studio et en dehors de ce studio, en train de lutter contre deux, trois choses qui vont pas bien. Des infections virales, des infections bactériennes, mais aussi des débuts de cancer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec un bon système immunitaire, on va contrôler ça. Donc toute l'idée de l'immunothérapie dont on parlait tout à l'heure, c'est justement de booster ces défenses immunitaires qui, malheureusement, dans de trop nombreux cas, sont défaillantes.
Alors l'immunothérapie, c'est vrai que c'est une vraie révolution actuelle, et d'ailleurs il y a d'autres types d'immunothérapie qui vont apparaître, on en parle dans le livre, mais c'est vrai que c'est un concept qui en fait est relativement ancien, qui marchait pas aussi bien que maintenant, et donc on a actuellement des immunothérapies qui remplacent littéralement la chimiothérapie, y compris pour traiter des patients atteints de cancer métastatique. Donc c'est un vrai, vrai changement.
Alors il n'existe pas de cause unique de cancer, il existe des facteurs externes et internes, des facteurs externes liés à l'environnement, des virus, des perturbateurs endocriniens, des rayonnements, des facteurs liés au mode de vie, comme le tabac, l'alcool, l'alimentation, notamment ultra-transformés. Des virus et des bactéries peuvent être à l'origine également de certains cancers, comme le papillomavirus ou le virus de l'hépatite B. Et puis il existe également des facteurs internes, comme l'âge ou l'hérédité. Plus on vieillit, plus on a de risques, évidemment, de développer un cancer.
Alors, le risque qui augmente quand on vieillit, c'est principalement lié justement à l'accumulation de ces mutations. Hein. On estime que pour faire une cellule entre guillemets cancéreuse, il faut avoir entre 50 et 100 mutations de l'ADN par cellule. Donc effectivement, si on accumule à un certain rythme les mutations, et bien effectivement, plus on va vieillir, plus on va avoir de risques.
Et quels sont les facteurs génétiques? Qu'est-ce qu'on sait sur
Que les facteurs de risque génétiques, en réalité, participent à une minorité du nombre de cancers. C'est entre 5 et 10%. La grosse, grosse majorité, c'est les comportements, le socio-économique, l'environnement, etc. Par contre, il est vrai que dès qu'on a ces mutations génétiques, notre risque personnel de cancer est très, très, très augmenté, typiquement pour le cancer du sein, BRCA1, pour la prostate, etc.
Pourquoi certains malades qui n'ont pas d'antécédents familiaux, de facteurs de risque génétiques, qui ont une hygiène de vie irréprochable, qui mangent sainement, ne boivent pas, ne fument pas, peuvent développer un cancer? Éric Vivier.
Bah comme ça a été dit, on ne connaît pas tout. Malheureusement, c'est la recherche en mouvement. Donc, c'est l'objet de nombreux travaux à travers le monde. On peut développer ce qu'on appelle des mutations de novo, c'est-à-dire qu'on n'acquiert pas ces mutations de nos parents. Mais malheureusement, parce qu'on a toute une série de mauvais aliments de planète, eh bien, il va y avoir.
C'est la faute à pas de chance.
C'est la faute à pas de chance tant qu'on ne comprend pas, mais il y a toujours des mécanismes.
Une chose, par exemple, qui est relativement récente, c'est qu'on ne comprenait pas l'apparition des glioblastomes.
Ces glioblastomes, Expliquez ce que c'est.
Donc, c'est une tumeur cérébrale de grade 4, donc c'est assez grave comme maladie, malheureusement, pour laquelle on a assez peu de traitements efficaces. Et jusqu'ici, on ne comprenait pas pourquoi on faisait ce type de tumeur-là. Il y a une hypothèse qui est apparue il y a à peu près un mois qui serait possiblement virale, avec un virus d'ailleurs qui est très très commun. Et donc, on ne comprend pas encore pourquoi, même s'il y a beaucoup de personnes qui font cette infection à ce virus-là, pourquoi certains font cette tumeur cérébrale et d'autres ne le font pas. Donc on est vraiment dans un cheminement scientifique permanent.
Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Alice.
Quel est le menu de votre chronique Quoi de neuf docteur?
Alors on a déjà parlé des aliments ultra transformés ici. Vous savez que 31%, un tiers pratiquement de nos apports caloriques viennent des aliments ultra transformés. Alors quand on parle de ce lien avec les cancers, la question qui se pose c'est est-ce qu'on doit bannir tous les aliments ultra transformés contre le cancer, on va répondre à cette question.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Et à la veille de la journée mondiale contre le cancer, quelles sont les dernières avancées de la science pour lutter contre la maladie? Écoutons la professeure Patricia Paterlini-Bréchaud dans Grand bien vous fasse en 2017. Elle évoque un test sanguin pour détecter les cellules tumorales.
Chez les patients avec cancer, ils détectent l'invasion tumorale. Donc, ils détectent aussi quand un cancer qui est considéré complètement localisé commence à diffuser dans le sang et les métastases ne sont pas encore formées. Donc, on peut adapter les traitements, faire ce qu'on appelle maintenant la médecine personnalisée dans le temps pour pouvoir traiter avant que les métastases se forment. Et ensuite, ça sert pour voir si les médicaments ont été efficaces et ont pu éliminer ces cellules tumorales dans le sang. Ça, c'est chez les patients avec cancer. Le test a un avantage, c'est qu'il est valable pour tout type de cancer solide, donc tous les cancers, sauf les leucémies et lymphomes. Maintenant, le test sert également à détecter précocement les cancers invasifs chez des sujets donc qui ne sont pas connus pour avoir un cancer. Mais dans cette utilisation, l'avantage que je viens de décrire, c'est-à-dire que le test est valable pour tout type de cancer, devient une limitation qu'on doit compléter parce que le test ne dit pas à partir de quel organe les cellules tumorales dérivent.
La professeure Patricia Paterlini-Bréchaud, c'était en 2017 dans cette émission. Où en est-on avec cette technique de dépistage précoce, professeur Jean-Emmanuel Bibeau?
Oui, alors effectivement, c'est une des techniques qui est particulièrement prometteuse. Donc tout ce qu'on appelle l'ADN tumoral circulant ou les cellules tumorales circulantes, qui consiste non plus, par exemple, à aller prendre un petit morceau, faire une biopsie d'une tumeur, mais de simplement faire une prise de sang. Et dans cette prise de sang, de détecter à des échelles vraiment infiniment petite la présence éventuelle d'un cancer. Et donc, comme ça a été dit, ça permet de diagnostiquer surtout tout type de cancer avant même qu'il ne soit visible sur un examen d'imagerie classique. Et puis, ça permet aussi potentiellement de surveiller les patients qui ont eu un cancer, qui ont été traités et qui présenteraient, par exemple, ce que l'on appelle une maladie résiduelle tumorale. Et donc ça, on peut le monitorer, c'est-à-dire qu'on peut le surveiller et dès que ça bouge, dès que ça augmente un petit peu, on peut, par exemple, recommencer des traitements. Donc, c'est extrêmement prometteur. C'est, en France, c'est pas encore tout à fait dans la routine clinique. Aux États-Unis, un petit peu plus.
La prévention et le dépistage restent deux piliers essentiels de la lutte contre le cancer. Philippe Bergerot, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue contre le cancer.
C'est sûr que la prévention n'intéresse pas grand monde. Parce que quand on parle de prévention, on parle sur le long terme. Et c'est un des gros problèmes, on l'a vu dans les discussions actuelles du PLFSS.
Expliquez ce que
c'est. C'est le budget de la sécurité sociale. Et lorsque l'on parle de prévention, c'est des sujets qui n'intéressent pas. En sachant que on a passé le mois sans tabac, et on a eu tout à l'heure la montée de boucliers des buralistes dès que l'on parle d'augmentation du prix du tabac. Mais quand on voit les conséquences du tabac, c'est dramatique, mais pas que. Et c'est vrai que quand on parle de la santé globalement, la santé, le soin n'est responsable que de 20% de l'amélioration de la santé. Ça veut dire que les 80% restants, c'est directement lié à l'environnement au sens large. Les habitudes socio-professionnelles, les habitudes économiques, les habitudes d'alimentation. Parce que je pense aussi qu'on ne fait pas assez attention à l'alimentation. On dit maintenant essayer de moins boire de l'alcool, mais si on remplace l'alcool par le sucre, on aura tout perdu. Donc il faut absolument essayer de travailler. Et je pense qu'il faut travailler dès l'enfance. Et c'est aussi pour ça que quand on parle au niveau de la Ligue des espaces sans tabac, on essaie de les faire principalement autour des parcs où il y a des enfants, pour sensibiliser les enfants et les jeunes parents au fait qu'il est préférable d'arrêter de fumer.
Professeur Boris Ancel.
Oui, il y a quelque chose d'extrêmement important qui vient d'être dit, c'est que on donne parfois des recommandations, par exemple arrêter l'alcool, je ne suis pas du tout contre, mais en nutrition et dans le mode de vie en général, quand on enlève quelque chose, on le remplace par autre chose. Et je pense qu'il est extrêmement important, au-delà de la connaissance scientifique, de faire très attention à la manière de communiquer. Parce que si on dit arrêtez le sucre et que vous buvez de l'alcool, ou inversement, ou qu'on dit arrêtez tout ce qui est édulcoré et ce qu'on se met à boire sucré, on n'a rien gagné. Donc, au-delà de la connaissance, je voudrais dire à tous les auditrices et aux auditeurs de faire attention aux messages qui sont dilapidés un jour ceci, un jour cela. Parce que la nutrition et le mode de vie, c'est un ensemble et il ne faut pas déséquilibrer un ensemble.
Jean-Emmanuel Bibot, sur la prévention et le dépistage comme piliers fondamentaux de la lutte contre le cancer.
C'est absolument majeur. Dans le livre, moi je l'ai mis dans la partie innovation, ce qui est paradoxal parce qu'on a l'impression que c'est pas du tout innovant, mais en fait si. On est dans une sorte de monde qui marche un peu sur la tête, où on développe des traitements et des politiques extrêmement coûteuses pour guérir les gens, heureusement bien sûr, mais on devrait aussi essayer de chercher à changer un peu le paradigme et à augmenter typiquement le dépistage et surtout la prévention. Mais en vérité, c'est vrai que c'est très très difficile de faire comprendre aux personnes, et je m'inclus dedans, l'intérêt de changer ses comportements, de faire de l'activité physique, etc.
Philippe Bergeron.
Mais dans la prévention, on sait malheureusement, dans le dépistage, on sait malheureusement qu'il y a des dépistages qui sont organisés. Et malgré l'organisation de dépistage et de dépistage gratuit, on va arriver au mois de mars, mars bleu. On a parlé de l'importance et l'augmentation des cancers digestifs. Moins de 40% des personnes font les tests de dépistage alors qu'il n'y a rien de plus facile à faire comme test. Pourquoi ?
Mars bleu.
Mars bleu, c'est le mois des dépistages des cancers coliques. Et donc, la Ligue sera présente avec une campagne un petit peu choc pour essayer de faire bouger les différents citoyens.
Question de Thierry Lhermitte.
Pour revenir sur le dépistage et le test sanguin, est-ce que ce test détecte des cellules, pas des cellules, ou des particules cancéreuses de cancer qui vont être stoppées par le système immunitaire ? Est-ce que ça n'amène pas à du surdiagnostic ?
Alors, c'est intéressant comme question, parce que typiquement, on disait tout à l'heure que le cancer de la prostate, c'est un des diagnostics les plus diagnostiqués. En fait, il y a aussi beaucoup de surdiagnostics. Et donc, effectivement, le risque d'utiliser des techniques qui sont très, très, très sensibles avant même qu'un vrai cancer ne se déclare pour de vrai, ça, c'est le sous-diagnostic. Et le sur-diagnostic, derrière, c'est les surtraitements. Et donc ça aussi, il y a sans doute quelque chose à jauger sur quand est-ce qu'il faut le faire ou pas. Quoi.
Question de Corinne, qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour.
Alors, quelle est votre réflexion, Corinne ?
Alors, ma réflexion, elle tourne autour de la prévention.
Ça tombe bien.
Au niveau, ben oui, j'ai entendu, au niveau des facteurs sur lesquels on peut agir. Moi, je suis atteinte d'un cancer. Mm-hmm. J'ai une mutation BRCA1. Donc, je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai une alimentation équilibrée, j'ai malgré tout un cancer. Mais on sait que 40% des cancers pourraient être évités en faisant attention justement à ces facteurs sur lesquels on peut agir. Or, on fait de la prévention, moi j'en fais avec l'hôpital dans lequel je suis suivie, et en réalité, on est matraqué à la télévision, par des reportages sur le vin, des publicités pour des produits ultra transformés. Bon, dans les séries, on fume, on boit,
vous
quand on
raison.
Rentre du travail, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, je m'adresse aussi au président de la Ligue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, quoi, en fait ?
Vous avez totalement raison, Corinne. Et d'ailleurs, dans cette émission, dans Grand Bien Vous Fasse, nous essayons de faire le maximum d'émissions de prévention. Philippe Bergerot, sur la question de Corinne.
Ben malheureusement, on est des souris par rapport aux mammouths de l'industrie du tabac et de l'alcool. Au mois de juin dernier, on avait même attaqué la RATP qui faisait dans le métro des publicités énormes pour la bière et théoriquement, sur le chemin des écoliers, on ne doit pas faire de publicité pour l'alcool. Donc on en avait déduit que les jeunes parisiens ne prenaient jamais le métro. Donc voilà, et malheureusement, on se bat pour le tabac, ça fait depuis pendant plusieurs années, on a lutté contre le tabac et il y a une recrudescence dans les films, mais on nous dit que, clairement, ça fait partie de l'art et on ne peut pas s'attaquer à l'art.
Boris Ancel.
Ouais, je voudrais juste dire, il y a quelques années, un des ministres de la Santé, enfin des ministères, s'appelait un ministère de la Prévention. Et puis finalement, ça a duré quelques mois, hein, ce ministère, on a changé de ministère. Aujourd'hui, il n'y a plus ce mot-là. Exactement. Donc, petit coup de gueule pour dire que je pense qu'au niveau politique, on est extrêmement loin de mettre en place une véritable politique de prévention des maladies en général et du cancer en particulier.
Il me semble que c'était quand Agnès Buzyn était ministre de la Santé, mais il faudra vérifier.
J'ai pas voulu donner de nom parce que c'est pas très bon.
Mais il faudra vérifier. Voilà. Merci beaucoup Corinne pour votre question. Pourquoi utilise-t-on plutôt la radiothérapie, la chimiothérapie, l'immunothérapie, les traitements médicamenteux ? Cela dépend de quoi ? Du type de cancer, de son évolution, du stade de la maladie ? Professeur Éric Vivier.
Oui, alors je vais essayer maintenant de diffuser des bonnes nouvelles, parce qu'il existe des bonnes nouvelles, en particulier dans la prise en charge de plus en plus de cancers. Alors effectivement, on a tout un arsenal thérapeutique maintenant, qui, exactement comme vous venez de le dire, consiste toujours dans la chirurgie, lié à de la radiothérapie, lié ou pas à de la chimiothérapie, et maintenant on a de l'immunothérapie. Et ce qu'il faut bien comprendre, que ces quatre piliers de la thérapie actuelle se complètent les uns des autres. Aujourd'hui, par exemple, on fait ce qu'on appelle des thérapies néo-adjuvantes, c'est-à-dire que quand on a des cancers qui sont opérables, on commence par les traiter, et ça peut être de la radiothérapie, et ça peut être de la chimiothérapie, et ça peut être associé à de l'immunothérapie, et ensuite on opère. Et on opère dans des conditions qui sont bien plus favorables que si on n'avait pas fait ces traitements néo-adjuvants. Et donc je pense qu'il faut quand même, encore une fois, diffuser ce message, c'est qu'il y a de plus en plus de cancers qui sont bien traités. Je voudrais aussi dire que du point de vue de l'immunothérapie, il y a plusieurs styles d'immunothérapie.
Expliquez d'abord ce qu'est l'immunothérapie, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis quelques années. Expliquez-nous ce que c'est.
Alors, on a un système immunitaire. Ce système immunitaire est juste essentiel à la vie. Je vais vous le démontrer par la clinique en une seconde. Quand on a des mutations qui font en sorte qu'on ait des bébés bulles, c'est-à-dire qu'on a une déficience immunitaire, on est obligé de rester dans la bulle. Donc, pour sortir de la bulle, il faut réparer le système immunitaire. C'est-à-dire que le système immunitaire est juste essentiel à la vie. Ce système immunitaire, il fonctionne en permanence. Il nous permet de lutter, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce moment même, contre 2-3 virus, 2-3 bactéries et peut-être un début de cancer. Mais dans la plupart des cas, ça se passe bien. Mais des fois, ça se passe mal. Et à ce moment-là, l'immunothérapie a pour but de booster, de stimuler nos propres défenses immunitaires. Ce qui veut dire, en réalité, que notre meilleur médicament, c'est quand même notre propre système immunitaire. Alors, on peut le faire de deux manières différentes. Les deux grandes façons de stimuler notre système immunitaire sont soit avec des anticorps monoclonaux, on va peut-être y revenir très simplement.
Expliquez ce que c'est.
Alors, les anticorps, en fait, ce sont des molécules absolument géniales. On a des milliards à l'intérieur de notre organisme et elles ont cette particularité de pouvoir reconnaître quelque chose qui n'est pas bon, pour faire très simple. Et c'est extrêmement spécifique. Par exemple, je vais prendre un exemple vraiment pour tout le
là,
monde.
Là, ce sont les anticorps monoclonaux.
Oui, alors ils sont monoclonaux. On va laisser tomber le terme monoclonal parce que ça ne sert à rien pour la compréhension. Et par exemple, si vous avez deux sortes, maintenant on est dans la saison des sports d'hiver, donc si vous prenez par exemple des pulls, okay, vous allez avoir des pulls de ski et des pulls qui ne sont pas des pulls de ski. Et bien l'anticorps va vous permettre de reconnaître le pull de ski et pas le pull qui n'est pas un pull de ski. Pourtant, ils ressemblent vraiment, mais ce n'est pas le même. Donc grâce à cette spécificité incroyable, on va pouvoir parce que cette technologie est complètement maîtrisée à l'échelle industrielle, faire des anticorps contre ce qu'on veut. Et la grande découverte qui a été récompensée par un prix Nobel en 2018, c'est qu'en fin de compte, au site tumoral, là où le cancer va se développer, notre système immunitaire est en quelque sorte la belle au bois dormant. Il est là, mais il ne fonctionne pas bien, voire il dort. Et donc grâce aux anticorps monoclonaux, et encore une fois, peu importe monoclonal ou pas, on va pouvoir de manière très spécifique réveiller notre système immunitaire. On va libérer notre système immunitaire de telle manière que maintenant il puisse reconnaître ces cellules tumorales de manière efficace et les éliminer.
Et à qui s'adresse cette immunothérapie? On peut traiter tous les cancers avec cette thérapie?
Alors c'est ça la très très bonne nouvelle. C'est qu'en fin de compte, pour la première fois de toute l'histoire de la médecine, un seul médicament d'immunothérapie qui va libérer cette réponse immunitaire a été approuvé dans tous les cancers, quelle que soit leur localisation. Alors, il y a une particularité qui est génétique, c'est qu'il faut que ces cancers soient instables. Parce que plus le cancer est instable, et plus le système immunitaire va pouvoir le reconnaître. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle.
Jean-Ménol Bibeau.
Oui, alors une dernière petite chose sur ça, c'est qu'il faut bien comprendre que toutes ces avancées-là, elles sont faites dans le cadre d'études. C'est-à-dire qu'on a des groupes de patients qu'on traite d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Et ensuite, on prend le traitement qui donne les meilleurs résultats. Simplement, le message que je voulais faire passer, c'est que ce n'est pas l'oncologue seul qui décide de traiter ou pas de cette façon-là. Il s'appuie sur un corpus d'études et il prend le meilleur traitement pour son patient.
Alors pourquoi le traitement sera plutôt la chimiothérapie, la chirurgie, l'immunothérapie? Philippe Bergerot.
Il faut savoir que dans le premier plan cancer, on a parlé d'une réorganisation de la prise en charge et on a été mis en place ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire. Et c'est-à-dire que lorsque un diagnostic de cancer est fait, il y a une réunion qui réunit plusieurs spécialistes, généralement le chirurgien, l'oncologue, radiothérapeute médical, et ce qui nous permet d'avoir une décision collégiale afin de pouvoir proposer le meilleur traitement. Et ça, c'est un élément extrêmement important, et ça permet même de proposer, quand il y a un essai thérapeutique, un essai thérapeutique. Et donc, un des éléments, malheureusement, c'est que encore peu de patients le sachent qu'on peut bénéficier de ces essais thérapeutiques.
Jean-Emmanuel Bibeau.
Oui, alors quand on parle d'essais thérapeutiques, effectivement, il y a de très grands nombres d'essais différents à différents moments du développement d'un médicament. Et effectivement, en France, on peut dire qu'on n'est pas encore optimal en termes de ces essais-là. C'est pas des cobayes et de l'expérimentation. C'est fait dans des cadres extrêmement réglementés et c'est très souvent une très grande chance de pouvoir participer à un essai clinique parce qu'il peut y avoir un potentiel bénéfice direct pour le patient. Donc ça, on peut faire de la pub pour les essais. Il faudrait qu'on inclue plus de patients.
Prenons un exemple concret, un cancer du foie, ça se traite comment? C'est par chirurgie, par chimiothérapie, immunothérapie? Comment se prend la décision pour traiter ce cancer-là, par exemple?
Alors, les différents éléments de décision, c'est d'abord le stade de la maladie.
D'accord.
Est-ce qu'elle est localisée, ou est-ce qu'elle est localement avancée, ou est-ce qu'elle est métastatique? En fonction déjà de ça, on va avoir des traitements différents. Typiquement, si elle est localisée, quel qu'il soit, le traitement de référence initial, ça sera plutôt la chirurgie en général. Et puis le deuxième
Et si c'est métastasé, par exemple?
On va plutôt faire un traitement systémique, donc qui va aller justement traiter toutes les lésions d'un seul coup, et donc ça peut être typiquement de l'immunothérapie, de la chimiothérapie, etc. Et puis le deuxième élément dont on se sert pour prendre ce genre de décision, c'est évidemment le patient lui-même, c'est-à-dire son état général, ce qu'on appelle ses comorbidités, son âge, etc. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire le même traitement pour tous les patients, et donc on personnalise autant que l'on peut à chaque personne.
Professeur Éric Vivier.
Oui, et dans ce cadre-là, il est important aussi de voir quelles sont les nouvelles tendances. Ce sont plus que des tendances, d'ailleurs, ce sont des pistes très très importantes, et là je vais parler de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, et j'en profite pour dire qu'on est en train de créer une ville nouvelle, littéralement dédiée au cancer, qui est le Paris-Saclay Cancer Cluster, dont j'ai l'honneur d'être le président, et donc toute l'idée, justement, c'est de regrouper toutes celles et tous ceux qui ont quelque chose à apporter à la lutte contre le cancer. Alors ça peut être de la prévention, mais c'est aussi du traitement, c'est aussi du diagnostic. Et dans ce cadre-là, on met les ingénieurs, par exemple les ingénieurs des grandes écoles. Moi, je suis prof à l'IX et on essaye justement donc d'attirer ces ingénieurs vers ces secteurs qui sont ceux de la
l'IX
santé.
L'IX et Polytechnique.
Oui, pardon. De telle manière à utiliser l'intelligence artificielle, enfin, on couple l'intelligence naturelle, pour le coup, et l'intelligence artificielle, de telle manière à pouvoir observer ce qui est le meilleur pour le patient. Et aujourd'hui, on a des entrepôts de données de santé qui cumulent des plus d'une centaine, par exemple, tests sur un seul patient. Et on va pêcher de manière intelligente dans ces entrepôts de données de santé pour sortir la plus grande probabilité de réussite de tel ou tel médicament. Et là, c'est très très important que tous travaillent ensemble de telle manière à utiliser ces nouvelles technologies et le lier au meilleur traitement possible.
Professeur Jean-Emmanuel Bibeau, sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, lundi prochain, nous consacrerons une émission à l'intelligence artificielle dans le secteur médical.
Alors, c'est vrai que ça c'est clairement une des percées majeures. J'en veux pour preuve, notamment, vous savez qu'il y a eu le projet Stargate qui a été annoncé par le président Trump et puis Sam Altman d'OpenAI aux États-Unis la semaine dernière. 500 milliards de dollars pour...
OpenAI qui est...
qui fait ChatGPT, voilà. Par exemple, dont tout le monde a entendu parler. Et donc, 500 milliards pour développer des IA, et le premier exemple qu'ils ont donné, à juste titre, c'est évidemment le développement, notamment dans le cancer. Pourquoi c'est intéressant, l'IA dans le cancer ? Eh bien, la première chose, à mon sens, c'est justement ce dont on a parlé tout à l'heure, la prévention et la prédiction. Typiquement, si on a des modèles ou des IA qui sont capables de prédire pour vous, à votre échelle individuelle, votre risque de développer une maladie en fonction de vos comportements, ça peut être un argument très concret pour changer de comportement, typiquement. Parce que c'est justement devant soi et on a quelque chose de précis. Et puis la deuxième chose sur l'IA, c'est que l'IA va être le chef d'orchestre, en fait, de tout ce dont on a parlé, l'immunothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, la chimiothérapie, les nanotechnologies, etc. On va pouvoir choisir quel est le bon traitement grâce à ça.
Tiens, à propos de nanoparticules, comment les nanoparticules vont nous aider à lutter contre le cancer ? Expliquez-nous peut-être, Jean-Emmanuel Bibeau, ce qu'est une nanoparticule.
Alors, une nanoparticule, c'est quelque chose qui est tout petit, et qui en général en médecine peut être utilisé notamment pour ce qu'on appelle potentialiser un autre traitement. C'est pas très souvent utilisé en tant que tel tout seul, c'est plutôt utilisé soit en partenariat avec de la radiothérapie, donc on va par exemple injecter une nanoparticule dans la tumeur et ensuite on va faire des rayons, et on a montré, notamment une entreprise française a montré que ça permet peut-être d'augmenter l'efficacité du traitement de façon vraiment significative, et puis ça peut aussi permettre de potentialiser la chimiothérapie. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de décupleur du pouvoir des traitements contre le cancer.
Une nanoparticule ?
Bah, c'est de l'échelle du nanomètre, donc tout petit.
Il existe des vaccins contre le cancer, comme le cancer contre les infections HPV, les papillomavirus humains. Quel est l'avenir des vaccins, et à l'aune notamment de l'avancée de l'ARN messager que l'on a découvert, pour le grand public en tout cas, au moment de la crise du Covid. Éric Vivier.
Ça fait partie des bonnes nouvelles. Ça fait partie des bonnes nouvelles parce qu'effectivement, on a, et vous l'avez rappelé à l'occasion du Covid, mis au point des techniques maintenant qui sont extrêmement efficaces de vaccination. Et on peut coupler ces nouvelles techniques aux autres manières de lutter contre le cancer. En particulier, il y a maintenant des combinaisons entre ces nouveaux vaccins contre le cancer et l'immunothérapie qui permettent de faire encore mieux prendre le vaccin. Et ça se comprend facilement. Je vous ai dit que l'immunothérapie, en partie, c'était libérer la réponse immunitaire. Donc si on vaccine et on libère la réponse immunitaire, elle sera d'autant plus efficace pour lutter contre certains cancers.
Quels cancers, à l'avenir, pourront bénéficier de ces vaccins ?
A priori tous, et ça c'est en théorie, comme on sait, en théorie tout va bien. Là, il y a des essais qui sont extrêmement intéressants dans des cancers qui sont extrêmement sévères, comme les cancers du tube digestif de manière générale, y compris le cancer du pancréas.
Quelle est l'efficacité des thérapies par cellule CAR-T ? C'est une thérapie surtout proposée pour les formes graves de cancer. Thérapie par cellule CAR-T.
Oui,
alors, CAR-T.
Oui, les CAR-T-cells. Donc effectivement, ce sont des thérapies surtout dans les tumeurs plutôt hématologiques, donc les lymphomes, le leucémie, etc. Ce sont des thérapies qui coûtent assez cher, mais qui sont très 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 efficaces, où on va en fait rééduquer, entre guillemets, les lymphocytes d'un patient, et comme si on en faisait une espèce de super commando contre le cancer précisément du patient en question. Donc c'est patient par patient, c'est pas une molécule pour tous les patients. Il faut qu'on prenne d'abord les molécules, enfin les cellules du patient, et qu'ensuite on les réinjecte après les avoir un petit peu préparées.
On en est où avec ces ces thérapies
C'est déjà utilisé complètement en routine clinique dans pas mal de centres, notamment en hématologie. Pour l'instant, pour les tumeurs solides, ce n'est pas encore tout à fait terminé.
Éric Vigier ?
Oui, tout à fait. Dans les immunothérapies, il y a justement les anticorps dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y a aussi maintenant les cellules, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les cellules comme médicament. Comme ça vient d'être dit, on utilise aujourd'hui essentiellement les propres cellules du patient, qu'on reprogramme génétiquement pour les réinjecter. Mais on essaye maintenant aussi d'utiliser cellules qui viennent d'autres individus, de telle manière à avoir des ampoules de cellules qui sont prêtes sur les étagères à injecter aux patients. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace, encore une fois, dans ce qu'on appelle les hémopathies malignes, c'est-à-dire les cancers du sang. Ça marche beaucoup moins bien pour l'instant dans les tumeurs solides.
Philippe Bergerot, vous êtes donc le président de la Ligue contre le cancer. Vous faites 10 recommandations, vous nous les révélez en exclusivité ce matin. 10 recommandations contre le cancer au président de la République à la veille de la Journée mondiale contre le cancer. Quelles sont ces recommandations principales ?
Alors, c'est pas moi qui fais ces recommandations, c'est un collectif de patients. Et c'est vrai qu'il y a 25 ans, il y a eu les états généraux de la Ligue contre le cancer et les patients ont pris la parole. Et non seulement ils l'ont prise, mais on a pu recueillir ces paroles et donc maintenant faire une co-construction avec eux. On a remarqué un certain nombre de choses, c'est qu'un certain nombre de droits existaient et ils sont en train de reculer. Dans le cadre des plans cancer, on a fait par exemple le dispositif d'annonce qui permettait aux personnes d'avoir une annonce calme sur le cancer. Malheureusement, ça diminue. Le temps moyen est passé de 45 minutes à moins d'une demi-heure par les médecins. Il y a de moins en moins d'infirmières qui prennent le relais. On parlait aussi des soins de support. Les soins de support, c'est tout ce qui n'est pas lié aux thérapeutiques dont on a parlé, des thérapies dures, mais la psychologie. L'activité physique adaptée est un élément important. La nutrition, les compléments sur la partie sexuelle. Et tout ça, il y a un recul, il y a moins de 60% des gens qui peuvent en bénéficier. On va même aussi sur la coordination avec les infirmières, parce qu'on se rend compte que, de plus en plus, les patients sont de moins souvent dans les établissements. Donc, comme ils sont moins souvent dans les établissements, il faut qu'il y ait une meilleure coordination avec la ville. Il y avait des infirmières qui étaient spécifiquement faites pour cela, et on a l'impression qu'il y a un recul. C'est tous ces éléments-là, et donc sur tout le parcours de la vie, on parle aussi de l'intérêt des essais. On en a parlé, l'intérêt. Mais s'il y a des essais thérapeutiques et qu'une faible partie de la population seulement peut en bénéficier, c'est pas la peine. Et quand on parle des difficultés, c'est pas forcément dans les campagnes, il y a dans certaines villes des difficultés simplement pour avoir accès aux soins. Donc un petit peu, c'est tous les droits qui existaient qui ne sont pas faits. Et on parle aussi des aidants. Parce que les aidants, et on dirait que le système de santé en France sans les aidants aurait beaucoup de mal à fonctionner. Et là, pour les aidants, il y a peu de choses qui sont faites, les aidants qui travaillent. Et donc, il y a un travail à faire pour eux. Une personne qui était malade, qui doit retourner au travail, ça en fait partie. Et on termine sur la fin de vie, qui va être un sujet extrêmement important. Et c'est pour ça que, sur les 10 recommandations, on balaye à peu près tout le parcours de vie.
On va pouvoir retrouver ces 10 recommandations sur le site de la Ligue contre le cancer.
Exactement, dès demain.
Dès demain, et on les mettra également sur la page de Grand Bien Vous Fasse. Il est 10h46, il est déjà l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf docteur du professeur Boris Ancel.
Ouais, ça me le fait, là.
Grand Bien Vous Fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf docteur?
Sur France Inter.
Boris Ancel, doit-on bannir tous les aliments ultra transformés contre le cancer ?
Alors, depuis quelques années, les chercheurs alertent sur le risque lié à la consommation des aliments ultra transformés. Et il est maintenant clairement recommandé de limiter ces produits. Alors, on va voir pourquoi et ce que ça signifie en pratique. Alors pour notre quotidien.
On pointe généralement les aliments industriels, mais ils ne sont pas tous ultra transformés. Comment les reconnaître ?
Alors, dans la grande famille des aliments ultra transformés, parce que c'est une très très grande famille, il y a d'abord ceux qui ont subi d'intenses transformations physiques, chimiques ou biologiques par des procédés industriels, par exemple un chauffage à très très haute température. Mais les aliments ultra transformés sont également ceux qui contiennent certains additifs ou des ingrédients qu'on ne trouve pas en cuisine à la maison. Et il faut préciser qu'ultra transformé, ce n'est pas synonyme d'industriel. Par exemple, les légumes et fruits surgelés industriels bruts ne sont pas transformés. Et inversement, il y a bien des produits artisanaux qui, du fait des additifs qui sont ajoutés, sont d'authentiques aliments ultra transformés. Alors, pour vous repérer en pratique, je vous conseille l'application Open Food Facts, qui est gratuite, et qui vous donne un score de transformation des aliments. Il n'est pas inventé, hein, ça va selon la classification NOVA. Retenez que le chiffre 4 ça veut dire ultra transformé.
Et la classification Nova a été élaborée par des chercheurs brésiliens de l'université de São Paulo. Et cette application s'appelle donc Open Food Facts. Elle est vraiment excellente. Alors, Boris Ancel, est-ce qu'on a la preuve que tous ces aliments ultra transformés provoquent un cancer ?
Alors, il est impossible de dire aujourd'hui que tel biscuit ultra transformé, tel pain, parce qu'il y a des pains, même artisanaux, qui sont ultra transformés, ou que tel plat cuisiné ultra transformé augmente le risque de cancer. Et probablement que tout n'est pas à mettre au même niveau. Actuellement, on ne dispose que d'études qui évaluent les produits ultra transformés dans leur ensemble. On sait que les personnes qui mangent le plus ultra transformé ont significativement plus de risques de développer certains cancers. Par exemple, une méta-analyse systématique publiée en 2023 dans Clinical Nutrition a révélé qu'une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultra transformés dans l'alimentation s'est associée à une augmentation du risque global de cancer d'environ 13% et de cancer du sein de 11%, de cancer du côlon de 30% et de cancer du pancréas de 50%.
50% pour le cancer du pancréas qui est en grande progression, nous disaient nos invités hors antenne. C'est énorme. Comment on explique cela, Boris Ancel ?
Alors, on peut donner schématiquement quatre grandes explications. Tout d'abord, comme l'a montré l'étude 1K3, publiée pour la France en 2021, on sait que les personnes qui consomment beaucoup d'aliments ultra transformés ont aussi une alimentation moins diversifiée, moins riche en nutriments essentiels qui sont connus intéressantes pour prévenir les cancers. Ensuite, il y a l'analyse nutritionnelle des aliments ultra transformés qui nous informe. Elle montre qu'en plus d'être ultra transformés, ils sont plus gras, surtout en graisse saturée, plus sucrés, plus salés. Et puis, il y a des additifs, et même des cocktails d'additifs qui sont incriminés. Alors, il est encore difficile de savoir lesquels sont vraiment toxiques. Mais on sait que des produits comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, on les appelle les HAP, ou encore des molécules appelées nitrosamines, sont potentiellement cancérigènes. Ces composés peuvent endommager l'ADN et favoriser la carcinogénèse. Alors, en pratique, je ne demande pas à mes patients d'éliminer à tout prix tous les aliments ultra transformés. Franchement, il faut être honnête, c'est difficile. Surtout quand on sait qu'en France, près d'un tiers de notre alimentation en calories est actuellement ultra transformée. Moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est d'être davantage conscient, sans culpabilité, de la place que prend l'alimentation ultra transformée chez vous et de voir ce qui peut être remplacé par des produits plus simples, faits maison ou achetés, mais composés d'ingrédients que vous pourriez avoir chez vous pour cuisiner. Diminuer de 10 à 20% vos aliments ultra transformés, c'est déjà excellent pour votre santé.
Et nos oncologues autour de la table acquiescent,
évidemment. Vous trouverez quelques références scientifiques qui ont permis de faire cette chronique sur le site de France Inter, comme d'habitude.
Et quoi de neuf, docteur ? Eh bien, de Boris Ancel, c'est à retrouver en vidéo hein, sur les réseaux sociaux. Alors, Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale, un laboratoire de chimie vous a ouvert les portes ce mois-ci pour une visite sur un projet en cancérologie. Ce projet associe deux équipes situées à l'école chimie ParisTech, celle de Gilles Gasser et celle de Christophe Thomas, et une troisième équipe, celle de Didier Decaudin à l'Institut Curie. C'est Marta Redrado Domingo, une jeune chercheuse espagnole financée depuis 2023 par la Fondation pour la Recherche Médicale, qui vous a présenté ses travaux sur un traitement innovant dans le cancer de l'ovaire. Pourquoi est-ce important de travailler sur de nouvelles thérapies contre le cancer de l'ovaire ?
C'est très important parce que ce cancer a encore un pronostic très sombre. La raison principale, c'est qu'il est découvert à un stade très avancé, car il ne provoque pas de symptômes pendant longtemps. Et puis les traitements proposés, qui combinent chirurgie et chimiothérapie, ont une efficacité limitée avec des résistances à la chimio, sans compter les effets secondaires dus à sa toxicité. Bref, le taux de guérison n'a pas progressé de manière décisive depuis 40 ans, contrairement à la grande majorité des autres tumeurs. Et s'il est environ 10 fois moins fréquent que le cancer du sein, le cancer de l'ovaire touche plus de 5000 femmes chaque année en France.
D'où le besoin de nouveaux traitements. En quoi consiste le projet de Martha ?
Eh bien, elle se propose de développer une nouvelle approche de la chimiothérapie qui combine à la fois des molécules nouvelles et un mode d'acheminement plus sélectif pour atteindre les tumeurs sans détruire les cellules saines de l'organisme. Parlons d'abord de la molécule thérapeutique. Elle est dérivée de métaux qui appartiennent au groupe platine. Et le platine, c'est le métal très utilisé en chimiothérapie, et notamment dans le cancer de l'ovaire, sous forme de carboplatine.
Alors, quels sont les métaux choisis par Marta Redrado Domingo ?
Eh bien, ce sont le ruthénium et l'iridium, utilisés eux aussi sous forme de dérivés chimiques. Ils sont toxiques pour les cellules, avec un mode d'action différent de celui du platine. Et ces métaux ont montré leur efficacité. Ils sont déjà en essai clinique aux États-Unis et au Canada dans le cancer de la vessie et du sein.
Et donc le défi, eh bien, c'est d'envoyer spécifiquement ces dérivés de métaux sur la tumeur pour éviter la toxicité sur les cellules saines.
Exactement. Et pour cela, l'idée de l'équipe est de greffer sur le métal un polymère biodégradable, une longue molécule formée à partir d'acide lactique. C'est l'acide naturel que nos muscles produisent à l'effort. Les chercheurs fabriquent le produit sous forme de petites particules d'une centaine de nanomètres de diamètre, soit 100 millionièmes de millimètre.
Et quels sont les avantages de cette formulation ?
Alors d'abord, ces particules protègent le métal durant son trajet dans l'organisme. Et ensuite, la taille des particules, qui peut être adaptée chimiquement, permet de cibler la tumeur. En effet, les vaisseaux qui irriguent une tumeur s'organisent très rapidement et présentent des défauts. Des espaces entre les cellules de leur paroi sont plus larges et c'est par ces interstices que le médicament va pénétrer au cœur de la tumeur. Le polymère biodégradable va disparaître et le métal va tuer les cellules cancéreuses.
Et ça marche ?
Les premiers résultats obtenus par l'équipe avec le ruthénium sont très prometteurs. Une fois injectée dans le sang, la molécule innovante s'accumule presque 20 fois plus dans la tumeur par rapport au métal seul, sans atteindre les autres organes, sauf un peu le foie et les reins qui sont chargés de l'élimination. Et elle n'a pas d'effet toxique dans l'organisme. Le projet se poursuit pour essayer d'améliorer encore ces résultats et tester l'effet de l'iridium. Et sous cette forme, conjuguée avec le polymère biodégradable, il semble d'ores et déjà que l'iridium soit efficace pour réduire le volume des tumeurs.
Voilà un projet innovant qui semble être sur le bon rail ?
Oui, à condition qu'il puisse continuer à être financé, car les chercheurs m'ont confié être inquiétés par la baisse du budget de la recherche. Il faut être conscient que le coût de tels travaux, pour cette approche par exemple, c'est environ 25 000 euros pour faire un essai préclinique, c'est-à-dire avant même de pouvoir faire les premiers essais chez l'homme.
Professeur Éric Vivier.
Oui, je voudrais insister sur l'importance de la recherche. On dit qu'il y a la recherche fondamentale, en fait c'est beaucoup plus simple que ça, la recherche est fondamentale. Aujourd'hui, pour transformer les produits de cette recherche en médicaments, on est dans le temps long, un temps de 20 ans, avec 1,5 milliard d'investissements, hein. C'est quand même les chiffres du secteur. Alors heureusement il y a des bonnes nouvelles, comme celle dont Thierry vient de nous parler, il y en a d'autres. On a créé nous par exemple une société de biotechnologie qui s'appelle Inet Pharma, qui utilise ces succès de la recherche pour des médicaments innovants.
Comment aider la Fondation pour la recherche médicale, Thierry ?
Sur frm.org par internet, ou si on veut envoyer 10 euros sur sa facture téléphonique, on envoie le SMS don au 92 300.
Don, D-O-N, au 92 300, et on peut également acheter Le Splendide par Le Splendide, publié au Cherche Midi. Les droits d'auteur sont reversés au bénéfice de la FRM. Merci professeur Jean-Emmanuel Bibeau. Cancer Confidential est publié aux Équateurs. Merci Éric Vivier. L'immunothérapie des cancers, c'est chez Odile Jacob. Et merci beaucoup Philippe Bergeron, on peut aider évidemment la Ligue contre le cancer.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.